franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Hélène Jean.
Bonjour.
On commence par cette information du matin. Départ inattendu.
Oui, et connu semble-t-il seulement de quelques proches qu'il avait mis dans la confidence. Le moment est venu de me retirer de la vie élective, écrit Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, dans une tribune envoyée à Centre Presse, le quotidien de son département de toujours, la Vienne. Je m'étais promis d'arrêter à 69 ans, je renonce aux 3 ans qu'il me reste à faire au Sénat. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux. Je n'abandonne pas le débat politique, c'est ma vie, mais je veux mener de nouveaux projets. Jean-Pierre Raffarin annonce notamment la création de sa propre ONG, Leaders pour la paix. Un retrait qui sera effectif en octobre après 50 ans de vie publique. Pas de dégagisme donc à son endroit, un auto-dégagement si l'on puis dire. N'empêche, Jean-Pierre Raffarin annonce son retrait un jour de rentrée parlementaire, tout un symbole du renouvellement désormais acquis de la vie politique. Rideau donc sur un ancien Premier ministre de Jacques Chirac, une figure importante de la droite chiracienne donc, et puis sarkozyste un peu, puis très anti-sarkozyste, juppéiste à la dernière primaire et à la manœuvre enfin ces dernières semaines pour faire advenir le groupe des constructifs à l'Assemblée nationale, ces députés LR qui entendent œuvrer auprès d'Emmanuel Macron.
Un sénateur vient bientôt s'en aller, mais c'est la rentrée donc pour les députés.
Je veux surtout être une députée exemplaire, présente dans les commissions, dit l'une. On a une efficacité particulière quand on sait concilier une carrière, l'intendance domestique et l'intendance des enfants. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la viticulture, dit une autre. Quand j'aurai des lacunes, j'irai voir le paysan concerné, le chasseur ou le demandeur d'emploi pour lui demander ce que je peux faire, explique une troisième. Certes, conclut une autre, c'est peut-être le moment de faire avancer des problématiques comme l'égalité homme-femme, mais toutes revendiquent d'être des députés et ES comme les autres, et S donc. Mesdames les députés, titre La Croix ce matin, pour accueillir donc une première au Palais Bourbon, 224 femmes. Qu'apporteront toutes ces femmes au débat parlementaire, s'interroge Florence Couré dans son édito. Eh bien, on serait tenté de répondre « rien ». Comme les hommes, elles apporteront leur enthousiasme au service du pays. Comme les hommes, certaines échoueront à se mettre à la hauteur de la tâche qui les attend. Ni meilleure, ni pire, conclut-elle. Les femmes sont attendues partout où les décisions se prennent parce qu'elles constituent la moitié de l'humanité et non parce qu'elles seraient dotées de qualités dont seraient dépourvus les hommes.
Et parmi les nouveaux députés, Hélène, un ancien Premier ministre.
Manuel Valls, qui vient d'annoncer donc lui qu'il quittait le PS. Il devrait intégrer les rangs... C'est donc un moustique, là, voilà. C'est pas un signe pour Manuel Valls. Il devrait intégrer les rangs d'un nouveau groupe à l'Assemblée, les constructifs de gauche. Manuel Valls, qui est ce matin face à Christine Angot dans Libération, entretien dans lequel l'ex-premier ministre auto-analyse son image dans l'opinion, ne ménage ni la presse, ni ses amis de gauche, ni surtout Jean-Luc Mélenchon. Mais sans psychologiser la violence dont il est l'objet, d'ailleurs il le dit lui-même, je suis immunisé contre ça. Mais en la resituant sur le terrain politique, des valeurs et des prises de position. Il assume être sur des sujets abrasifs, dit-il, comme l'islam, la laïcité, les quartiers. Il dit comprendre qu'on trouve ces prises de position abruptes, mais elles sont juste sans concession, affirme-t-il, car il faut l'être sur ces sujets-là. Par exemple, quand marqué par la résurgence des actes antisémites dans sa ville, il prend la tête du combat contre Dieudonné en 2013 et le gagne en le délégitimant en tant qu'artiste. Manuel Valls regrette que lorsque Dieudonné vient à son tour tenter de se légitimer, lui, sur le terrain politique, en l'affrontant à Évry lors des dernières législatives, personne ne l'ait dénoncé, dit-il. On l'a même mis dans le même sac que Francis Lalanne. Lorsque Dieudonné donne ses voix à la candidate de la France Insoumise au second tour, elle n'a rien dit, accuse-t-il. À gauche, on n'est pas à l'aise sur le sujet. C'est presque un angle mort, une complaisance, une gêne. Dès qu'on sort de l'explication économique et sociale, la gauche est perdue. Et d'accuser très clairement la France Insoumise de se compromettre avec l'islam politique. Mélenchon est dangereux, affirme-t-il sans détour. Valls, à l'intérieur, à Matignon ou isolé sur les bancs de l'Assemblée, abrasif sans doute, mais on ne pourra en tout cas pas lui reprocher de changer de discours.
Ce matin, dans la presse, Hélène, encore des questions sur une éventuelle intervention d'Emmanuel Macron devant les parlementaires le 3 juillet prochain, c'est-à-dire lundi prochain.
Exactement. Macron voudrait-il éclipser son Premier ministre, s'interroge ce matin le Parisien. Alors l'Humanité continue d'affirmer que cette convocation du Congrès par le président de la République à la veille du discours de politique générale de son Premier ministre est une torsion du bras de Marianne, une preuve du coup d'État permanent, pour reprendre le titre du pamphlet de Mitterrand. Dans le Figaro, Guillaume Tabar lui remet un peu les pendules à l'heure en nous rappelant 2-3 petites choses. On a oublié par exemple que Nicolas Sarkozy puis François Hollande ne laissèrent ni à François Fillon ni à Jean-Marc Ayrault la primeur de la première grande expression publique, mais eux avaient choisi un 20h à la télé. La différence, relève Tabar, c'est que Macron tient plus que aux modes les plus solennels de l'exercice de sa fonction, d'où le congrès et l'écrin du château de Versailles. En clair, Emmanuel Macron entend aller, lui, au bout de l'hyper-présidence imaginée par Nicolas Sarkozy avec cette intervention devant le congrès. Et puis dans la presse également ce matin, retour sur le bad buzz, comme le titre Libération, ou même le bad bzzz, puisqu'il s'agit d'abeilles. Couac, mise au point, fin de l'histoire. En presque aussi peu de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, nous dit François-Xavier Bourmeau dans le Figaro, Édouard Philippe a tenté d'éteindre la polémique entre ministres au sein de son gouvernement sur la question sensible des pesticides et néonicotinoïdes. Environnement 1, agriculture 0, résume Alex dans son dessin du courrier Picard. C'est en effet Nicolas Hulot qui l'a remporté hier contre son collègue Stéphane Travert, mais pour beaucoup d'éditorialistes, c'est tout de même un coup de chaud pour Hulot. Derrière ces braves abeilles, écrit Christophe Lucet dans Sud-Ouest, se profile aussi quelques belles couleuvres qu'il faudra bien avaler sans s'étrangler. Et pour Jean-Michel Helvic dans La République des Pyrénées, cette passe d'armes apporte surtout un utile coup de projecteur sur le lobbying qui se développe dans ces zones opaques du pouvoir que sont les cabinets ministériels. 1-0 donc, mais le match de la transition écologique est loin, loin d'être terminé.
On termine, Hélène.
On termine par l'opus 2 de la revue America. Trump, la maison flanche, en titre, pour dire combien, au bout d'un semestre, la maison blanche est fort mal en point. Numéro aussi passionnant que le premier, avec des entretiens ou des tribunes de grands écrivains, comme Rushdie ou Don DeLillo, qui racontent la crise d'identité vécue par les Américains, mais aussi des longs reportages de journalistes qui parfois valent les grands écrivains. Il faut partir avec Philippe Coste à Newburgh, à une heure de Manhattan, Crime City. C'est là que Washington imagina l'utopie américaine. C'est là que prit corps le rêve américain avant que la ville ne soit déclarée officiellement dépotoir urbain par la police, par les gouvernements successifs. En fait, c'est toute l'histoire des États-Unis qu'on revisite dans cette seule ville, celle dont n'est pas coupable le seul Donald Trump. C'est pas inutile de le rappeler, vu toutes les charges qui pèsent déjà contre lui.